Vous écoutez
RMC.
À Manhattan, au cœur de New York, toujours avec Maxime Chano, en direct du café Luce. On est très heureux d'être ici, on a migré de New Jersey à New York. Et bizarrement, on a plus d'invités, dès la première soirée.
Je t'avais dit, Manhattan, c'est le centre du monde.
J'ai l'impression qu'on était dans le Wisconsin, dans Massachusetts. Ah ouais. Ça y est, là on est rentré en pleine ville. Il est là avec nous. Ami, c'est la famille RMC.
Quel honneur.
Là, c'est la famille RMC. Franck Leboeuf est dans l'after. Salut, Francky.
Salut, Nico. Salut, tout le monde.
Super
ça va,
de t'avoir.
Ça va, les gars.
Ça va, toi? On est chez toi aussi, hein.
C'est ton. Ouais, vraiment, j'étais plus sur Los Angeles, mais.
Je parle du pays, quoi.
Ouais, j'ai pas mal vécu ici, mais j'ai vécu presque 8 ans. Et puis, mais ça fait longtemps, depuis 2012, je suis retourné en France. Il faut que je paye mes impôts en France.
Tu préférais venir à New York ou tu préférais Los Angeles? Les vibes californiennes?
New York, 3 jours, c'était trop intense. Après, je partais, j'aime la campagne et tout ça. Et à Los Angeles, c'était un peu plus vaste. C'est un peu plus tranquille. Et puis, l'hiver, c'est quand même meilleur à Los Angeles qu'à New York.
Ah oui, c'est
voilà. Mais j'aime beaucoup le vibe, comme on dit, de New York, mais c'est fatigant à force.
Ah oui. C'est fatigant. Bon, alors, tu bosses aussi pour ESPN.
Oui.
C'est ça, consultant depuis très longtemps pour ESPN.
Oui. Bah, en même temps que je travaillais pour RMC, je travaillais pour ESPN.
C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Très bien. Tu es aussi comédien, on le rappelle, metteur en scène.
Oui.
Tu produis des pièces de théâtre.
Exactement.
Si vous avez des problèmes de chaussures, de running,
moi,
c'est Franck Leboeuf qui vous livre également.
Je peux m'organiser aussi pour des bagnoles.
Les bagnoles aussi, là,
c'est tout. Mais
on voit que toi. En fait, pendant la Coupe du Monde, on voit que Beckham sur la télé américaine.
Voilà.
Et en France, on voit que Franck Leboeuf.
T'as beaucoup vu, c'est vrai.
Qu'est-ce que je veux dire, Beckham, Franck Leboeuf. Bon, le compte en banque, c'est pas le même.
Ouais, mais quand même.
J'aurais continué à RMC, j'aurais pu être milliardaire quand même. Mais...
Ah oui, tu penses? En euros, RMC? On payait bien RMC?
Ouais, en grammes. Ah, ça payait très très bien. C'est pour ça qu'il n'y a plus de télé.
Il n'y a plus de chaîne. Bon, vas-y, ton sentiment, Franck, quand même, sur cette Coupe du Monde là. On sait pas trop quoi en penser. Le format 48, les inégalités sur le terrain entre les toutes petites nations, les plus grosses nations. On va perdre du temps, ça peut être indigeste tous ces matchs.
Ouais.
Ton sentiment aujourd'hui?
J'étais perplexe comme tout le monde. Je me disais, pour nommer le meilleur buteur, c'est le mec qui va marquer 7 buts contre Curaçao, Cap-Vert ou Haïti. Et puis ça n'a pas été le cas, à part Curaçao qui en a pris 7 contre l'Allemagne. Cap-Vert, il nous a surpris, quoi. Ça a été extraordinaire. Ça a été un grand moment. C'est le plus grand match pour moi de la Coupe du Monde pour l'instant. C'est Argentine-Cap-Vert. C'est assez monumental ce qu'ont été capables de faire les Cap-Verdiens. Et puis, j'aime bien là, cette Coupe du Monde. Il y a des choses qui plaisent moins bien, mais bien sûr. Mais franchement, je trouve qu'on peut être assez positif. On avait peur des terrains aussi. On avait peur des stades. Les stades sont monumentaux et extraordinaires. Je suis pas allé dans des stades, donc je suis pas allé avec l'ambiance. Quelquefois, c'est un petit peu fade.
Ouais, c'est un peu l'américaine.
C'est un petit peu fade parce qu'il y a que les riches qui peuvent rentrer. Quand
oui.
Mais sincèrement, j'ai trouvé les matchs assez intéressants pour certains. Et je vis une belle Coupe du Monde.
Bon, les Bleus évidemment. On t'a quelques secondes seulement.
Oui,
tu seras demain dans un grand rendez-vous.
C'est demain où tu dois payer
dans Hôtel
cher. Pour avoir.
Le chèque c'est demain, Antoine Varnier.
Voilà,
hein.
Voilà.
Là c'est gratuit.
Là c'est gratuit.
18h avec Jérôme dans Rotten sans flamme.
Ouais.
Ces Bleus-là, nous ils nous enchantent. Comment dire le contraire en réalité, quoi.
Bah, c'est la plus belle équipe.
On a Youri Djorkaeff pendant 40 minutes avec nous, ton coéquipier avec toi, champion du monde. Il voit des similitudes entre ces deux sélections-là dans la force collective, le combat collectif. Il y a un truc qui cimente ce groupe. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi?
Je suis complètement d'accord avec Youri. Je trouve qu'il y a on sent une équipe de club en équipe nationale, comme nous l'étions en 98, où tout le monde a envie de se battre, où ceux qui rentrent ne font pas honte à l'équipe. Et puis, il y a une vraie motivation. Ça a été très, très dur contre le Paraguay. Je les ai trouvés très, très forts, mentalement surtout, de ne pas réagir et tout ça. Et oui, c'était moins joli, on a moins vu des Olysées, c'était compliqué pour lui parce que bon voilà, le traitement il était un peu extrême, je trouve. Mais l'autre fois j'ai dû nommer pour ESPN les 5 meilleurs de l'équipe de France. Ah ben, j'ai quand même mis Saliba et Upamecano dedans, hein, parce que moi ils m'éclatent, ils sont extraordinaires les deux derrière.
J'allais t'en parler justement.
Ouais, je trouve que en tant qu'ancien défenseur central, on a une paire de défenseurs centraux qui sont extraordinaires. Donc je voulais leur rendre hommage. Mmh.
Et comme on en parle moins, t'as raison, c'est vrai.
Ouais, et il faut rendre hommage aussi à des joueurs comme Rabiot, ce qu'il a fait, et bien sûr les 4-5 de devant là, selon comment Didier les peut les faire jouer. Qui font peur à tout le monde.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler du quatuor offensif, hein, tu l'as dit, mais on a peu parlé finalement de Saliba ou Upamecano, qui pour moi est la meilleure paire de centraux. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi.
Ouais.
Ils ont montré énormément de sérénité, une très belle complémentarité. Petite question, tiens, si tu devais les comparer à ton époque, d'accord, à un grand Franck Leboeuf, Marcel Desailly, tiens, cette finale de Coupe du Monde 98, quel père est la meilleure?
On vit dans un autre football, donc je trouve que il y a plus beaucoup de bons défenseurs. Ils savent tous relancer, et c'est la chance qu'on a avec la France, c'est qu'on a de vrais défenseurs. Moi, j'étais un petit peu. Je pense que je me serais régalé maintenant, parce que j'étais plus quelqu'un qui était capable de jouer au ballon que de défendre. J'étais moins bon défenseur que ces joueurs-là. Marcel Desailly, c'était juste un monstre. Il était appelé le Rock. C'était pas pour faire rigoler les gens. C'est juste que le gars, il était intraitable. Donc Marcel, c'était extraordinaire. J'aime pas comparer. Je les trouve très très compatibles. Ouais. Je trouve qu'ils travaillent très bien ensemble.
Complémentaires.
Que c'est pas facile pour eux, parce que je trouve ni Koundé ni côté gauche, selon que ce soit les frères Hernandez ou Dean, que ce soit au même niveau, alors que nous on avait quand même Lizarazu, Thuram ou Candela et Carambeu, et c'était quand même très très fort. C'est la complémentarité de tous les joueurs qui ont fait que l'équipe de France 98 a été très très forte. Là il y a je pense que Jules doit nous montrer beaucoup plus, il est capable, parce que ce qu'il a fait à Barcelone il y a l'année dernière, c'est ce que je veux voir de Jules Koundé. J'aime bien Digne, mais il y a encore quelques petites faiblesses, on va dire, mais franchement ce groupe il est bon, il est fort, il fait peur à tout le monde, et j'espère qu'on va gagner cette Coupe du Monde.
Voilà, c'est là-dessus qu'on va dire un grand merci à Francky, qui sera demain 18h dans Rotten sans flamme pendant une heure. Merci Franck. Hein.
Merci à vous les gars.
Un plaisir de vous
demain. Bonne soirée.
C'est à manger, c'est bon ou pas?
Non, j'y vais là.
D'accord.
Je vais manger là au resto.
Ah bah très bien.
Il paraît que c'est gratos.
Il y a des pâtes au limoncello qui sont excellentes.
C'est vrai.
Il paraît que c'est gratos. On va avoir des problèmes. Merci Franck.
Allez, ciao les gars. Ciao.
À très vite sur RMC. Max Chano est toujours à mes côtés. Et on va accueillir également Julien Laurence qui nous rejoint. Julien, qui nous accompagne depuis plusieurs jours dans cette Coupe du Monde,
toujours
depuis des
élégant.
Années sur RMC. Ah oui, mais c'est la classe.
Ah ouais,
c'est le jeune connerie français. Quoi.
Ah ouais, non, mais c'est là, j'ai été.
C'est le jeune connerie français.
Choqué. Agréablement surpris.
Et bientôt, il aura la même coupe que jeune connerie, je pense.
Il a un barbeur là.
J'ai fait un barbeur hier, les gars, au hasard là, à Times Square.
Parce que j'ai pas vu. J'essaie de regarder. Il m'a dit, je suis parti chez le barbeur.
Mais non, mais le mec, je lui dis not too short. Il me fait OK. C'est-à-dire, tu veux quoi? Not too short. Il me dit, mais ça veut rien dire de too short. Tu veux quoi comme coupe? C'était un petit papy de 75 ans, iranien d'origine.
Ah ouais.
Je le salue.
Tu l'as tenté.
60$ et on
voit pas 40$ et je lui ai fait $10 de type. On voit pas la différence, t'as raison.
Ouais, non, c'est exactement la même chose qu'il y a deux jours.
$50. Bon, ça va, Jules?
Superbe, et toi?
C'est quoi ton match du jour, là? La question con, tu vois. T'as préféré quoi comme match entre Suisse-Colombie et Argentine-Égypte?
Moi, sur Argentine-Égypte, il m'a fasciné dans le sens aussi où on a vu les limites de cette équipe argentine. Et sincèrement, on avait déjà vu un petit peu contre le Cap-Vert.
Oui.
Et aujourd'hui, je pense que l'Égypte, qui n'est pas non plus super forte, a aussi exposé quelques faiblesses, ou les faiblesses de cette équipe-là, dans les transitions offensives, déjà, ou sur le but refusé et le deuxième but, ils sont à la rue totale. Ce manque de vitesse qu'ils ont avec ballon depuis la retraite de Di Maria aussi, tu vois, Nico Gonzalez, c'est pas le même niveau. Mais sinon, le milieu à 4-8, là, moi, oui, tu gardes bien le ballon, ça bouge bien. Mais t'as moins de percussions, t'as pas de 1 contre 1 par exemple. Il n'y a aucun joueur à part Messi qui gagne des 1 contre 1.
C'est vrai.
Mais alors, la question que je viens de composer tout à l'heure, c'est est-ce que ça peut tenir encore ce miracle Messi, ce miracle argentin? Sincèrement. Enfin, on a enfin vu un bon Lautaro son entrée. Enfin,
ouais,
Lautaro a été bien.
C'est vrai.
Mais Lisandro Martinez, catastrophique.
Catastrophique.
Otamendi sera mieux sûrement plus tard. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça peut tenir? Il y a la Suisse en quart, c'est presque une chance, même si attention aux Suisses. Après, Norvège ou Angleterre en demi-finale?
Alors, moi, je pense que ça aurait été mieux pour l'Argentine si la Colombie s'était qualifiée.
Ah bon?
Ouais,
tout le monde me disait, attention, la Colombie peut suivre l'Argentine.
Alors, je pense qu'ils ont un avantage psychologique sur les Colombiens, déjà, les Argentins. La Colombie qui a souvent voulu, et d'ailleurs qui a perdu contre la finale de la Copa América il y a 2 ans contre l'Argentine aussi, mais qui a toujours essayé de rivaliser un petit peu. Rappelle-toi du 5-0, du fameux 5-0 de 93 avec l'équipe de Valderrama, etc., etc. Mais qui a jamais réussi, de Freddy Rincon, qui a jamais réussi finalement à rivaliser avec l'Argentine. Et je pense que l'Argentine a cette supériorité un petit peu, même juste psychologiquement, sur le terrain aussi, je pense, mais psychologiquement sur l'Argentine. En revanche, une équipe européenne, c'est très rare pour les Argentins d'affronter des équipes européennes. Je pense que la Suisse, surtout si Manzambi revient, a le côté physique et l'intensité, l'expérience pour gêner cette équipe argentine. Alors je pense que l'Argentine se qualifiera, je pense, Mais je pense que les Suisses peuvent vraiment leur poser des problèmes.
Après ce qu'on a vu hein, entre les Suisses et la Colombie, Julien, avec tout le respect que j'ai pour ces deux équipes, mais honnêtement, c'était très très moyen. Alors moi, oui, j'avais mis sur le compte du fait que c'était justement un match à élimination directe, que ça pouvait faire peur et que ça pouvait justement cristalliser un petit peu certains joueurs. Mais honnêtement, j'ai vu une Suisse, une très petite Suisse, elle s'en sort très très bien au tir au but en gagnant contre la Colombie. Par contre, une chose est sûre, c'est que l'Égypte a eu la très bonne idée de marquer les premiers dans le match, qui a obligé finalement les Argentins à devoir contre-attaquer et donc s'exposer. Et je suis d'accord avec toi, les Argentins nous ont montré vraiment une faiblesse, une carence, c'est que dans les transitions offensives, leur manque de vitesse, notamment en défense, c'est quelque chose à exploiter.
Ouais. Parlons de la Suisse, on en a très peu parlé, tu as commencé à l'évoquer. Bon, match horrible, hein, Suisse-Colombie, on va pas en faire un quart d'heure. Je veux qu'on parle de la Suisse, d'un homme que tu as beaucoup commenté en Angleterre, c'est Granit Xhaka. Ouais. C'est l'homme qui a réveillé la Nati. Il avait dit avant le mondial, je veux qu'on soit la meilleure équipe suisse de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est inédit, hein, la Suisse en quart de finale de ce mondial. Certes, attendez, on ne sait pas sexy, ça nous emmerde. Mais ce que cet homme crée en termes d'énergie collective, ce qu'il porte sur ses épaules est absolument dingue, Julien. Il a 33 ans, il a dépassé les 150 sélections. Quoi.
Pour moi, c'est la grande classe. Alors, on peut aimer le personnage ou pas trop. Il a eu des moments un peu de controverse, on va dire, ou de polémique dans sa carrière, certes. Mais quand tu vois l'impact qu'il a eu à Sunderland, par exemple, et pourquoi Régis Lebris a tant tenu à le faire venir, avec Kyrian Louis-Dreyfus aussi, d'ailleurs, hein. Un des plus jolis coups de mercato qu'on a vu ces dernières années, notamment en Première Ligue. L'impact qu'il a eu sur cette équipe-là à l'entraînement, en match. Je me rappelle qu'on a fait dans l'After Angleterre cette saison, Wilson Isidore, qui parlait de Granit Xhaka en disant « Vous ne vous rendez pas compte l'exigence qu'il amène à l'entraînement dans les matchs. » Un peu comme un Zlatan l'avait fait au PSG, par exemple, mais avec une mentalité encore un petit peu différente chez Granit, qui n'a sûrement pas l'arrogance d'un Zlatan, par exemple. Et avec cette équipe-là, c'est pareil. C'est le métronome, c'est le patron, c'est le joueur qui contrôle un petit peu tout, et le tempo, et la physionomie d'une rencontre. Moi, je suis vraiment impressionné par ce qu'il fait encore à cet âge-là. C'est pas un accident, par exemple, si Chelsea, le Chelsea de Xabi Alonso, essaye encore même maintenant de le faire venir à Chelsea pour entourer les jeunes, pour être ce qu'il avait été au Bayer Leverkusen sous Xabi Alonso. Déjà, tu vois, ce vrai patron d'une équipe sur le terrain, ton entraîneur adjoint finalement, mais sur un terrain. C'est exactement ce qu'il fait avec la Suisse. Et pour moi, c'est super intéressant de voir, parce que des joueurs comme ça, on en a plus beaucoup.
Il y en a plus beaucoup. Et c'est vrai que dans une équipe suisse où tu regardes intrinsèquement, c'est un peu limité, on va pas se mentir. Et encore plus sans Mozambique, vraiment, cette équipe suisse, elle a vraiment souffert. Il n'y avait absolument aucune verticalité. C'était très, très compliqué derrière pour justement arriver à faire le lien entre ces milieux de terrain et l'attaque suisse. Pour revenir à Xhaka, je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé sa mentalité. Et notamment sur la première pause fraîcheur, où je sais pas si tu as vu, mais il a jeté son bidon d'eau par terre. Il avait l'air complètement énervé. Alors, est-ce que ça venait de la tactique justement de Yakin? Parce que c'est vrai que les Suisses ont commencé ce match très défensif, avec un bloc très bas. Yakin, moi, donc j'avais vraiment le sentiment que le capitaine suisse était vraiment pas content en fait de la tactique qui avait été imposée par le sélectionneur. Maintenant, il a été précieux, je suis d'accord avec toi, pour motiver le groupe. Il a quand même perdu deux ballons très très importants qui ont donné des grosses occasions aux Colombiens. Donc voilà, est-ce que finalement cette équipe suisse sans Manzambi n'a aucune chance de pouvoir battre l'Argentine? Ça risque d'être très très compliqué, mais on le sent quand même, et je répète une dernière fois, que intrinsèquement, qualitativement parlant, c'est quand même poussif, même s'ils ont quand même une défense assez intéressante, et notamment avec un Akanji qui a complètement loupé son tir au but. Bon, ça c'est des choses
encore
qui arrivent,
hein, parce qu'il y a deux ans déjà contre l'Angleterre, il avait
c'est vrai son tir au but. Exactement, mais voilà, je pense que le plafond de verre pour la Suisse, ça risque d'être le prochain match contre l'Argentine. Je les vois en tout cas pas du tout battre les Argentins.
Bon, dans un instant, on va faire le mini bracket quart de finale. Car ça y est, on a les 8 qualifiés. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, tout début d'émission avec Cédric Canté. On a 6 Européens, un Sud-Américain, un Africain. Ouais. Le Boug Arnaud est de retour avec nous. Le Boug, ça va?
Ouais, tout roule.
On n'entend pas bien le Boug. C'est bon, on va rapprocher le micro du Boug. On est bon. Toi, on a parlé de la RDC avec toi tout à l'heure. On avait 9 des 10 pays qualifiés en 16e de finale. On arrive en quart, il ne reste plus qu'un pays africain. Est-ce que tu penses que le continent affiche encore les mêmes limites qu'avant, ou est-ce que tu vois comme un progrès?
Il y a un progrès. Ben, on a pris 9 équipes qui sont qualifiées pour le deuxième tour. Mais dans les 9 équipes, je crois qu'il y a 4 équipes qui sont sorties. Enfin, qui sont qualifiés grâce en fait à la troisième place qui pouvait être qualificative. Et entre les premières et deuxième places, ben, il y a eu 5 équipes quand même qui sont qualifiées. C'est-à-dire que même dans l'ancienne version, si c'était ces 5 équipes africaines-là, ben, il y aurait eu 5 équipes en 8e de finale. Donc il y a un progrès. Et je pense que là, pour une Coupe du Monde à 48, c'est la première fois qu'il y a autant de pays africains. On va voir ce qui va se passer pour les prochaines éditions. Moi, je pense que faut laisser le temps au temps. Et le temps nous donnera le respect. Le temps nous permettra de nous améliorer en tant qu'équipe africaine. Et voilà.
On a souvent mis en avant pendant cette Coupe du Monde que les équipes africaines respectaient peut-être un peu trop les grosses nations européennes. Quel est ton ressenti? Et notamment, je me souviens, le match entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne où les Ivoiriens ont lavé les Allemands. Et derrière, t'as Emers Faye, le sélectionneur ivoirien, qui dit c'était pas trop mal, on a bien joué. Et même certains joueurs d'ailleurs, certains joueurs africains qui ont les qualités pour être dans ces grandes équipes nationales européennes, mais qui ont toujours tendance à dire c'était pas mal, le football africain évolue. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire? Comment toi tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu trouves justement qu'il n'y a pas un complexe d'infériorité qui normalement aurait peut-être dû être cassé, notamment avec ce que le Maroc a fait en Coupe du Monde 2022? Est-ce que finalement le dernier prétendant africain qui est encore en lice en Coupe du Monde, c'est pas votre espoir pour prendre confiance en vous? Je parle d'un point de vue continental.
Voilà, le seul espoir même aujourd'hui. Ouais.
Non, il n'y a pas d'espoir. Enfin, c'est pas le seul espoir dans le
sens où
on a vu les
performances. En termes de crédibilité, je parle bien.
Ouais, en vrai, la crédibilité, c'est sur le terrain qu'on va la gagner. Et s'il y a une chose que j'ai envie de dire à toutes ces équipes qui respectent trop leur adversaire, c'est la charité bien ordonnée commence par soi-même. Respectons-nous d'abord. Et quand nous, on va se respecter, on se donnera les chances de battre ceux qui sont en face. Si on continue de respecter, de dire voilà, ils ont l'expérience, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont peut-être cette dernière touche ou peut-être cette expérience qui fait que peut-être dans les dernières minutes, les buts, ils les mettent, ils ont peut-être cette profondeur de banc, etc. Oui, mais nous aussi, en vérité, nous aussi, on peut l'avoir, ça. Nous, cette expérience-là, on peut l'acquérir. Ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Et je pense qu'on va vers le mieux.
Après, la réussite du Maroc et sur cette Coupe du Monde-là, qu'ils sortent en quart de finale ou pas, ou qu'ils aillent en demi, en finale, qu'ils la gagnent, on verra bien. Mais et la dernière Coupe du Monde, ça te montre aussi qu'à un moment, le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Et c'est aussi ce que tu mets, l'investissement et les finances que tu mets dans ta structure, dans tout ce que le Maroc a fait au niveau de la formation, au niveau des structures d'entraînement, des centres d'entraînement, des infrastructures, tout ce que tu veux. Et c'est là aussi où d'autres doivent suivre un peu l'exemple. Je te dis pas que tout le monde peut faire comme le Maroc, c'est pas possible. Mm-hmm. Mais que tu dois suivre peut-être cet exemple-là aussi pour arriver à un niveau similaire, tu penses?
Oui, c'est un exemple. C'est totalement un exemple, le Maroc. Ben, quand on voit déjà au niveau de la formation, quand on voit que les U17 vont loin en Coupe du Monde, des jeunes, pas en Coupe d'Afrique ou en Coupe de... Non, Coupe du Monde, ils vont loin. Les U19 vont loin en Coupe du Monde. Les U21 vont loin en Coupe du Monde. Déjà là, on sent qu'il y a un travail qui est fait déjà pour la jeunesse. Dès que les équipes africaines comprendront que la jeunesse, c'est la base de leur futur, je pense qu'ils seront inarrêtables. Maintenant là, nous on a d'autres bénédictions. D'autres diront que c'est une problématique, mais moi je dirais que c'est une bénédiction. On a aussi les joueurs qui sont issus de la diaspora, les binationaux, etc. Et personnellement, que ce soit pour le Congo ou pour la Côte d'Ivoire ou d'autres équipes, c'est une bénédiction, mais il ne faut pas que la transformer en malédiction, parce qu'il faut savoir la gérer. Il faut savoir faire en sorte de donner les moyens en fait, à ces joueurs de venir dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent livrer les meilleures performances.
Oui. Et à ton sens, quelle est la plus grosse déception justement en termes de nation africaine? Est-ce que ce serait le Congo? Ça serait le Sénégal?
Le Sénégal.
J'allais t'en parler. Pour moi, le Sénégal, et d'autant plus quand tu vois la première mi-temps qu'ils ont fait contre l'équipe de France, où tu te dis il y a quelque chose. Toi, aujourd'hui, l'élimination du Sénégal, c'est...
Contre la Belgique, ils ne doivent jamais perdre.
Les gars, ça, c'est une histoire. Si je vous la raconte, vous allez rigoler. Je regarde le match 2-0, je me dis que c'est bon. Je vais aux toilettes, je me lave les mains, George 2-2. En 3 minutes, 2, mais non. Ça, c'est...
Parce que dans
j'ai même plus envie d'en parler, carrément.
On est en train de réaliser un exploit, on n'est pas prêt à le réaliser, donc on s'effondre.
On s'effondre en 3 minutes et après on prend un pénalty dans la dernière minute des prolongations à la 120e. Non, les gars, non, ça c'est trop désolant. Mais bon, je pense que c'est une... Après, on a appris qu'il y avait des problèmes extra-sportifs aussi. Le coach qui n'avait pas signé son contrat, des tensions dans l'équipe, etc. Ça, c'est de l'extra-sportif.
Moi, ce que j'ai... Voilà, c'est vrai qu'évidemment, il y a cette sortie de Pape Gay. Moi, ce que j'avais entendu pendant la compétition, c'était pas si grave que ça. Voilà.
Quand t'as un cadre qui balance après élimination, je reviens plus tant que le staff est en place.
En tout cas, j'ai eu des joueurs sénégalais qui m'avaient dit qu'à ce moment-là, ça allait. Alors évidemment, après, il y a cette sortie de Pape Gay qui fait tout remettre en cause et en perspective. C'est sûr que ça devait pas être exceptionnel, mais je pense pas que les Sénégalais peuvent se cacher derrière ça. En tout cas, c'est mon avis. Et encore plus quand tu vois le scénario du match où tu l'as dit, tu mènes 2-0. Normalement, tu dois aller au bout.
Le Bougarno, merci.
Merci à vous.
Tu restes encore un peu à New York, hein. Tu connais l'adresse?
Ouais, je suis encore là. Je suis encore là, il n'y a pas de problème. Yes.
Parole véritable, hein. Évidemment, allez-y les gars sur YouTube, tout ça. Yes. Merci d'être venu. À très vite sur RMC. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. On va prolonger. Alors, je sais pas si on fait une petite pause ou pas. On verra. On va continuer puisque t'as vu, là, on est dans le resto. On est à table, en fait.
Alors, on est bien.
Qu'Antoine Varnier est par là? Non, il est pas là. C'est pas grave. Il est en train de gérer les invités. Il y a Cédric Canté qui va revenir également. Car Cédric, tu peux revenir, Cédric Canté.
Et en plus, je l'ai vu tout à l'heure et je l'ai reconnu et je suis pas allé dire bonjour et c'est ma faute. Et voilà,
bah
je
ouais.
Lui dire bonjour.
Grand défenseur central.
Ah, bien sûr.
Grand défenseur.
Grand défenseur et pas qu'en taille. Hein.
Alors, on va jouer au jeu du bracket, les amis. On a fait du France-Maroc tout à l'heure pendant quasiment une demi-heure avec toi, Max, avec Jean-Louis Tour. Julien, ton avis là-dessus, quoi. On a fait le débat. Est-ce que l'équipe de France est aussi favorite qu'en 2022 face au Maroc sur ce quart de finale-là?
Ouais, je pense. Pour moi, en tout cas, même si ce sera un match complètement différent de celui de 2022. Et simplement parce que ces deux équipes-là sont très différentes dans leur façon de jouer de celle de 2022. C'est plus l'équipe défensive de Didier Deschamps qu'on avait vu en 2022, par exemple. C'est une équipe avec ces quatre là devant qui est beaucoup plus offensive, pardon. Et c'est la même chose un petit peu pour le Maroc sous Wahbi plutôt qu'elle était sous Regragui. Donc je m'attends à un match beaucoup plus intéressant déjà, parce que rappelez-vous, c'était une belle purge quand même, hein, le match de 2022 après l'ouverture du score si précoce de Théo Hernandez. Et moi j'ai hâte de voir deux équipes qui vont attaquer, qui vont laisser des espaces où ça va être ouvert, où on va kiffer. Et je pense qu'au final les Bleus marqueront un but de plus ou deux de plus, et ça finira plus un 4-2 si tu veux qu'un 1-0 pour quelqu'un.
Cédric est de retour, Cédric Canté. On a déjà fait débat sur le Maroc avec.
Je suis désolé, je t'ai reconnu là-bas et je suis pas venu. T'étais en famille et moi
mais
j'ai.
T'inquiète pas.
Je suis toujours très bien élevé.
Il n'ose pas déranger les gens. Vrai.
Alors, Espagne-Belgique, les amis. Est-ce que pour vous, il y a un débat? La Belgique est un peu miraculeuse aussi. On a parlé de sa victoire contre le Sénégal, menée 2-0. Rudy Garcia, la folie, la conférence de presse où il dit un peu n'importe quoi, il se récupère le lendemain. Derrière, il enchaîne, il se qualifie. Est-ce que tu estimes que cette confrontation est plus équilibrée qu'on le pense ou pas du tout, Cédric?
Pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que les Espagnols, après cette sortie du piège face au. Enfin, piège. Ce gros match face au Portugal, qui est presque une finale. C'était incroyable de voir ce match en huitième. Pour moi, ils sont hyper favoris. Donc, je ne les vois pas trébucher face à la Belgique. Tu l'as dit, miraculé face au Sénégal. Pratiquement pas existé. Il y a eu des changements, des choix forts de la part de Rudy Garcia. Pour moi, leur Coupe du Monde, elle est déjà réussie. Donc, je ne vais pas compter sur la décompression, mais je trouve qu'ils sont quand même deux temps en dessous de l'Espagne, qui est venue avec un objectif clair, qui a battu le Portugal. Et enfin, je peux me tromper. Je ne vais pas dire que j'espère me tromper, parce que voilà, les Espagnols, moins on les joue, mieux on se porte. Donc, s'ils peuvent sortir. Comme les Allemands, mais non, je les vois vraiment pas trembler peut-être, mais je les vois passer face à la Belgique.
Max?
Oui, je suis pareil. Alors moi, j'ai surtout envie de dire que cette équipe belge m'a absolument pas convaincu. Il y a évidemment ce match contre le Sénégal où est-ce qu'ils sont absolument miraculés. Ils peuvent dire un grand merci à leur capitaine Tillmans, hein, qui les sauve vraiment d'un sacré bourbier. Mais c'est surtout le match contre les États-Unis, parce que si tu regardes le score, tu peux penser que les Belges ont roulé sur les États-Unis, mais en fait c'est la réalité, c'est que les Américains ont été très mauvais. Et donc j'ai pas envie de prendre ce match-là comme match référence pour les Belges. Il y a eu des changements de la part de Rudy Garcia. Il a mis Kevin De Bruyne sur le banc, ce qui est quand même un choix fort de sa part.
Doku aussi.
Doku sur le banc et Lukaku. Alors Lukaku, est-ce une surprise?
Non,
parce qu'on sait très bien qu'il a vécu une saison très très difficile. Mais voilà, il a fait rentrer des joueurs qui pour moi peuvent fonctionner contre le Sénégal ou contre les États-Unis, et notamment un Hans Vallaken qu'on connaît très bien du côté du club de Bruges, qui est un très bon joueur. C'est la même chose avec un Brandon Mekele ou un Julien Ngoy. Quand même, ces deux joueurs qui sont, je te parle vraiment d'un point de vue international, pour moi un petit peu limité.
Et on donc, parle le quart de finale de Coupe du Monde.
Exactement,
là.
C'est la raison pour laquelle je pense que ce sont des joueurs qui peuvent fonctionner contre les États-Unis, contre des joueurs qui sont des très bons joueurs, mais qui n'ont pas forcément le niveau de la Rora, en tout cas de cette équipe espagnole. Moi, je pense sincèrement que les Belges vont souffrir et vont même peut-être exploser contre les Espagnols.
Ah, je pense aussi. Je pense que même si le plan de jeu contre les États-Unis a très bien fonctionné, parce que finalement, c'était très prévisible, parce que les États-Unis faisaient la même chose depuis le début de la compétition. De le faire, d'avoir un plan de jeu similaire, on va dire, contre les Espagnols, dans le sens où tu veux éviter la percussion sur les côtés, de Lamine Yamal d'un côté, de Baena de l'autre, avec les deux latéraux, Pedro Porro, Cucurella, Luke Bacchio et Trossard, ça peut le faire contre les Américains. Freeman, Robinson, tout ce qu'on veut.
Exactement.
C'est une autre histoire contre l'Espagne. Le but de Merino, il n'y a que l'Espagne qui peut le marquer, celui-là. La combinaison Fabian Ruiz, Rodri, Merino, Ferran Torres, il n'y a que qui peuvent, c'est celui-là. Et si tu essaie de bloquer les côtés comme les Portugais ont essayé de le faire à un moment, tu vas t'exposer dans l'axe, et ça ils sont capables de marquer comme ça, d'être dangereux comme ça, d'être dangereux sur les côtés. Sincèrement, même si c'est pas une grande équipe d'Espagne, je pense qu'ils seront trop forts pour les Belges.
Trop de marge. Ouais, avec un Yamal justement qui doit prouver aussi, qui doit montrer. Quand tu regardes les latéraux belges,
c'est pas encore fait là. Hein,
mais justement, je pense qu'il va forcément à un moment donné se réveiller. Il va forcément à un moment donné se réveiller. Je le vois bien se réveiller contre les Belges, et d'autant plus que quand tu regardes un petit peu les latéraux belges, que ce soit de Kuiper sur le côté de Brighton ou Castagne, bon, c'est quand même pas des bêtes c'est de ça. Foudre. Hein. C'est des bons joueurs, mais ça reste limité. Donc
moi, je vois bien. Des bêtes de foudre.
Ah oui.
Sortez-le moi, s'il vous plaît.
Comment on dit?
Un jingle. Des foudres de guerre.
Des foudres de guerre. C'est ce que j'ai dit.
Non, pas du tout.
Vous avez mal entendu.
Des bêtes de foudre.
Pas du tout.
Des bêtes de foudre. Après, ça est magnifique. Après,
ah, j'adore. C'est mon meilleur moment.
Ah, mais là, attends. Non, mais comprenez.
Il s'est bien habillé. Il s'en va.
Voilà, je savais. Tu vois, après 4 ans d'antenne, j'ai le cerveau qui brûle un petit peu.
Les prochaines de Bachelor pour Machado.
Enfin, tout ça pour te dire que je vois bien Yamal se réveiller, et je pense pas que les défenseurs belges ont les qualités pour pouvoir contrer les ailiers espagnols.
Non, mais Yamal, c'est intéressant. Parce qu'on a quasiment pas parlé, nous, dans l'after, à lieu de l'after. Comment on juge la Coupe du Monde pour l'instant? Moi, je l'ai trouvé en échec, hein, face au Portugal. Prise à 2, prise à 3. Ouais. Mais un joueur d'une telle dimension, c'est pas la première fois qu'il est confronté à ce genre de, comment dire, de densité dans sa zone. Il arrive pas à s'en sortir dans ce mondial pour l'instant. Alors, il est blessé, il est revenu sur le tard.
J'ai envie de dire, c'est son problème à lui. Ce qu'il y a avec l'Espagne, c'est qu'ils ont tellement d'autres solutions. Et au final, c'est un collectif qui est plus fort qu'une individualité. C'est vrai qu'on a eu la victoire à l'Euro où il y avait Williams et il y avait Yamal. Tout était basé sur eux. On a dit, ouais, c'est incroyable, etc. Mais ils sont capables de faire tellement de choses. T'as vu le milieu de terrain qu'ils ont. Avant, t'as cité Fabián Ruiz, Merino. C'est deux joueurs qui sont même pas titulaires. Donc les mecs sont capables d'inventer des choses en sortant du banc. Donc la Lamine Yamal, et je peux dire qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui sont très contents que la Lamine Yamal soit pas le seul à briller. Il fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire.
Tu sais aussi quelle est la raison, c'est parce que Cédric l'a dit très justement, au dernier Euro, il y avait un déséquilibre qui allait sur les deux côtés, c'est-à-dire que tu avais Yamal qui avait la possibilité de pouvoir percuter, et de l'autre côté tu avais un Nico Williams, ce qui fait que les équipes qui jouaient contre l'Espagne, voilà, ne savaient pas vraiment d'où allait venir le danger. Là c'est différent avec un Nico Williams qui a toujours pas retrouvé sa forme, à Baena qui est un bon joueur mais qui a tendance à rentrer dans l'axe. Ouais, finalement le danger il vient que du côté de Yamal. C'est la raison pour laquelle les équipes qui jouent contre l'Espagne double en tout cas la défense du côté de Yamal, et donc forcément c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Je pense que l'absence de Nico Williams est vraiment préjudiciable, parce que justement ça crée un déséquilibre que l'Espagne n'est plus prêt en tout cas à assumer.
Je pense que la victoire contre le Portugal, qui est vraiment le premier vrai test de cette équipe espagnole, tu vois, et qui est montée un petit peu en puissance après le 0-0 de leur premier match contre le Cap-Vert par exemple et tout ça. Je pense que c'est exactement ce qu'il leur fallait finalement pour lancer leur Coupe du Monde. Et je pense que maintenant, on va retrouver une Espagne qui sera très proche de celle de l'Euro 2024 et qui va être très difficile à affronter.
Est-ce que tu les sens pas un peu trop prévisibles, toujours avec ces joueurs qui viennent chercher le ballon dans les pieds?
Ah, mais ils trouvent toujours une solution.
Ouais, monorythme, mais en même temps, ils sont tellement au-dessus. C'est vrai qu'on parlait de la réponse tactique des Belges. Moi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, mais face aux États-Unis, c'est une chose. Face aux Espagnols, sûrs de leur football, avec des joueurs techniquement qui sont dans la possession, Yamal qui peut se réveiller. Pour moi, honnêtement, il y a trop de différences. Pour moi, c'est plus déséquilibré qu'un France-Maroc, par exemple.
Ils n'ont pas encaissé un but encore. Hein. Ils n'ont pas encaissé un but. Alors, tu peux dire, oui, les adversaires, c'est sûr, mais ils n'ont pas encaissé un but.